French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez ? C'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 78 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite, la CFE permet aux Français de l'étranger de continuer de bénéficier de la même protection sociale qu'en France à l'étranger. Pour en profiter, il vous suffit d'adhérer à la CFE, peu importe votre situation, peu importe le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous vous rendez, et bien entendu, peu importe la pathologie ou les circonstances, catastrophes naturelles, faits de guerre, etc. Grâce à la CFE, vous pouvez vous détendre. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le système français de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
C'est mon petit personnage, mon petit alter ego, tout simplement parce que disons que 99% des dessins que je fais sont inspirés de choses qui me sont arrivées ou de choses que j'ai vues, donc de la vie quotidienne. Et donc j'ai ce petit personnage avec une petite choucroute sur la tête qui me représente. Et voilà, les dessins, c'est pas très recherché, hein, c'est quelques petits coups de crayon, quelques petites taches de couleur parce que j'aime pas trop colorier, mais voilà, et c'est une petite mise en situation dans des situations dans lesquelles, pour les dessins expat du moins, je pense on s'est souvent retrouvé en tant que Français à l'étranger. Du moins, c'est ce dont j'ai l'impression, parce que parfois je dessine des choses et j'ai l'impression que ça n'est arrivé qu'à moi, et puis je me rends compte avec les commentaires que c'est arrivé à tout le monde. Donc, et puis voilà, je pense que le trait principal, oui, effectivement, c'est l'humour.
L'auteur Alan Bennett disait « Un livre est un moyen d'enflammer l'imagination. » Et un livre de dessin alors ? Cette semaine, l'UNESCO fêtait la Journée internationale de la langue maternelle. Cette journée est l'occasion de reconnaître l'impact positif des langues et du multilinguisme sur l'inclusion. On parle de langue maternelle car beaucoup d'entre nous qui écoutons ou qui parlons dans ce podcast vivons dans un pays dans lequel on ne parle pas notre langue maternelle au quotidien. Et si vivre à l'étranger peut changer la façon que l'on a de s'identifier à notre pays d'origine, cela peut aussi impacter grandement notre façon de parler notre langue maternelle. On prend un accent qui n'est pas le nôtre, on perd ses mots, on mélange aussi parfois. S'il y a bien une personne qui dépeint avec précision, mais aussi avec beaucoup de talent et d'humour, notre façon de vivre à l'étranger et de parler français, eh bien c'est Clémentine Latron. À la base, Clémentine est traductrice, mais le dessin l'a toujours quelque peu taquinée. Et un jour, elle s'est emparée d'un crayon pour raconter la vie des expats, sa vie, avec un humour décapant et des traits efficaces. Et vous allez voir que l'histoire de Clémentine est une jolie leçon à écouter sa petite voix, puisque cette idée l'amènera très loin. C'est d'ailleurs grâce à celle-ci que Clémentine a pu entamer une reconversion pleine de sens vers le dessin. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
Je m'appelle Clémentine, j'ai 33 ans, j'habite à Amsterdam depuis 8 ans et que je suis traductrice et illustratrice. J'ai vécu en France jusqu'à ce que je vienne à Amsterdam. En fait, c'est juste que ça a été un peu entrecoupé de stages à l'étranger, d'Erasmus. Mais à chaque fois, c'était pour quelques mois. Et c'est juste que j'ai beaucoup déménagé en France et outre-mer. Parce que mon père était militaire. Ensuite, il est parti dans le corps préfectoral et que, de fait, on déménageait tous les 2-3 ans. On n'est jamais resté plus de 3 ans au même endroit. Donc c'était sportif, je pense, surtout pour ma maman qui gérait tous les déménagements, parce qu'on est 4 enfants en plus, donc il y avait les écoles et compagnie. Mais ça nous a permis de découvrir les 4 coins de la France, d'aller jusqu'à Saint-Martin, la Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon pour mes parents. Moi, je vivais plus avec eux, mais donc voilà, donc c'était sympa. on est retourné à Saint-Martin, qui était notre première destination un peu exotique, disons. On y est retourné quand on est ensuite allé en Martinique, je pense deux fois. La Martinique, je suis pas encore retournée, et Saint-Pierre et Miquelon, non, pas encore non plus, mais c'est pas l'envie qui manque.
Donc Clémentine a beaucoup voyagé en France et autour du monde jusqu'à s'installer à Amsterdam. Une fois le lycée terminé et le bac en poche, la voilà qui se lance en classe préparatoire et qui commence à s'intéresser aux études qui lui permettront de devenir traductrice professionnelle.
J'ai passé mon bac, j'ai fait une prépa littéraire. J'ai même fait 3 ans de prépa parce qu'en fait, au bout de 2 ans, je savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire. Et au bout de 3 ans, j'avais... c'était même pas vraiment dans l'optique de vraiment passer les concours de Normale Sup. C'était plus parce que je savais que j'aurais une équivalence à l'université. C'est seulement à la fin de ma deuxième année de prépa que j'ai eu une vague idée de ce que je voulais faire, c'est-à-dire de la traduction, parce que j'ai entendu parler d'une école de traduction à Paris, l'ISIT. Et je savais que je pouvais présenter un dossier pour y entrer sur dossier après, en fait, une autre année de prépa. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, c'est une école en 5 ans. Mais moi, du coup, je suis arrivée en 3e année et qui mène à beaucoup de choses, donc traducteur, mais aussi interprète si on prend une autre formation, et puis c'est assez divers. Et d'ailleurs, les gens qui étaient dans ma promo font des choses très très diverses aujourd'hui. Il y en a qui sont partis dans la musique, il y en a qui sont partis dans des boîtes, en RH, qui sont partis en marketing, enfin, parce qu'en fait je pense qu'on a un profil qui est très interculturel après cette formation et qui plaît dans les boîtes, très très divers et débouchés.
Alors du coup, tu finis ton école et tout de suite pour toi, c'est évident que tu vas partir à l'étranger, c'est ça ?
Oui, oui.
Je sais que c'est pas forcément quelque chose sur lequel il est facile de mettre des mots, mais est-ce que tu saurais nous expliquer ce qui t'intéressait, ce qui t'attirait autant finalement vers la vie à l'étranger ?
J'avais fait mon Erasmus au Pays de Galles, j'avais fait un stage en Angleterre et un autre stage en Espagne, pardon. Et en fait, à chaque fois, j'adorais me plonger dans une nouvelle culture, découvrir pas une nouvelle langue du coup, parce que c'était les langues que j'étudiais, mais toute la culture autour. Et en fait, je trouvais ça assez nouveau et excitant d'arriver dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, et puis d'avoir plein de choses à apprendre. Et c'est pour ça que je voulais repartir à l'étranger une fois mon diplôme en poche. Je me suis pas facilité dans la tâche dans le sens où j'étais un peu en mode candidature spontanée, dans des boîtes qui m'intéressaient, et bon, ça marche pas plus trop à notre époque, donc j'ai mis un peu de temps à trouver quelque chose, et j'ai fini par trouver un poste de rédactrice et un peu traductrice dans une agence de voyage en ligne à Amsterdam. Mais je visais pas spécialement Amsterdam, en fait je visais plutôt le Royaume-Uni. À un moment je vais même envoyer aux États-Unis, enfin voilà, c'était très ouvert.
Tu étais ouverte à tout, en fait.
J'étais ouverte à tout.
Et tu connaissais un peu Amsterdam, les Pays-Bas, avant d'y aller?
Je connaissais Amsterdam et peut-être une ou deux autres villes, parce qu'en Erasmus, je me suis fait des très bonnes copines néerlandaises que je continuais à avoir et que je continue toujours à voir. Et donc, je savais que la ville me plaisait beaucoup. Et je dois dire que aussi l'idée d'apprendre une nouvelle langue me plaisait bien, même si c'était pas du tout une langue que j'avais en tête. mais voilà, donc voilà, je partais pas non plus totalement dans l'inconnu avec Amsterdam.
Génial. Et alors aujourd'hui, combien de langues est-ce que tu parles ? Donc j'ai entendu dire que ça y est, le néerlandais, ouais, fait aussi partie de tes services, oui, de traductrice. Voilà. Donc c'est une langue que tu maîtrises. Il y a quoi d'autre ? L'anglais ? L'espagnol ? L'allemand ?
Non, anglais, espagnol et néerlandais du coup.
Aujourd'hui, Clémentine est donc illustratrice et traductrice, et elle aimerait que l'illustration prenne encore plus de place dans sa vie professionnelle. Et c'est un peu ce qui est arrivé. Il y a 8 ans, un magazine plutôt connu du nom de Courrier International est venu frapper à sa porte.
Qui qui vient sonner sur mon téléphone. Non, je sais plus, c'était un mail. Oui, parce qu'en fait, il lançait Courrier Expat, qui est un site qui regroupe voilà des articles sur l'expatriation et qui voulait s'entourer de blogueurs en fait dans différents pays. Et donc ils m'ont proposé. Je sais pas trop comment ils étaient tombés sur mes dessins, mais j'imagine qu'à l'époque, je faisais déjà des dessins sur les Pays-Bas ou voire peut-être avant les pays où j'avais vécu. J'ai accepté et je me suis retrouvée avec un blog sur Courrier Expat qui s'est retrouvé baptisé Dessine-moi un expat parce que j'ai dû lui donner un nom très rapidement et voilà. Et sur lequel je raconte la vie d'expat en général et la vie de Française aux Pays-Bas en particulier depuis maintenant peut-être 7 ans. C'était faire une petite chronique illustrée de la vie d'expats en général et aux Pays-Bas en particulier. Et la carte blanche, c'est génial, mais en même temps, c'est très vaste. Donc c'est chouette. Mais là, c'est vrai qu'au bout de 8 ans, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de tous les sujets. J'ai un peu plus de mal à trouver de l'inspiration. Mais de temps en temps, voilà, dans la vie de tous les jours, je me rends compte de choses. Et puis, je me dis, tiens, ça, j'ai pas encore dessiné dessus. Ou juste en parlant avec des Néerlandais, je me dis, des choses qui sont devenues en fait normales pour moi, mais qui finalement le sont pas pour des Français. Comme par exemple, la dernière fois, on parlait des anniversaires. Et en fait, aux Pays-Bas, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, on félicite cette personne, mais on félicite aussi tous les membres de sa famille et ses amis. Donc en fait, on va dire « gefeliciteerd » à la personne, et après on va dire à ses parents, par exemple, « gefeliciteerd met je dochter », donc félicitations pour ta fille, félicitations pour ta sœur, félicitations... Donc voilà, et ça je me suis dit, je crois que je l'ai abordé dans une toute petite vignette, mais que ça mériterait un peu plus d'exploration.
La question du recul, en fait, elle est aussi vachement intéressante parce que j'imagine qu'au bout de 8 ans sur place, t'es plus surprise par les mêmes choses, en fait, finalement. Comment est-ce que tu fais pour garder, j'allais dire, des yeux frais en français, fresh eyes, un regard neuf, en fait, finalement, sur tout ce que tu découvres? Comment est-ce que tu fais pour te renouveler, du coup, finalement?
Oui, j'ai un regard peut-être un peu moins nouveau sur les Pays-Bas. Et ça, je m'en rends compte quand je voyage, justement, quand j'arrive dans un autre pays et où là j'ai plein d'idées qui fusent parce qu'il y a plein de trucs que je connaissais pas, que je découvre. Mais malgré tout, c'est pas en 8 ans qu'on découvre une culture en profondeur, à 100%. Donc maintenant, c'est plus au détour de conversation. C'est en parlant soit avec des Français, soit avec d'autres étrangers ou avec des Néerlandais qu'il y a des choses qui sortent qui me donnent des idées. Mais oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui, au début, m'auraient étonnée, qui maintenant font complètement partie de mon quotidien. Donc bon.
Alors, si Clémentine dessine des situations qu'elle a rencontrées ou dont on lui a parlé aux Pays-Bas, ses dessins s'appliquent finalement et on peut s'identifier à ses dessins à peu près partout dans le monde. Moi, aux États-Unis, j'ai vu la plupart de ses dessins passer. Je les ai, je crois, découverts sur Instagram. Et je m'y suis beaucoup identifiée. Cette opportunité, amenée par Courrier International, qui lançait Courrier Expat, a été un véritable tremplin dans la carrière d'illustratrice de Clémentine.
C'est, je pense, énormément les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. J'aurais tendance à dire plutôt Instagram de nos jours, mais Courrier International partage essentiellement sur, enfin en tout cas mes dessins les partagent essentiellement sur Facebook et c'est un peu, ça a été ça, oui, je pense mon tremplin parce qu'en termes de visibilité c'est énorme et effectivement c'est grâce aux réseaux sociaux que ces dessins se sont un peu diffusés, ont commencé à voyager pas mal et puis et c'est souvent grâce aux réseaux sociaux qu'on me trouve grâce à mes dessins que mes clients actuels tombent sur mes dessins, viennent me chercher et donc voilà, c'est ma Instagram est ma plus belle vitrine en ce sens.
Et avant que Courrier Expat ne rentre dans la vie de Clémentine, quelle était la place du dessin finalement dans son quotidien ? J'ai lu quelque part une anecdote Clémentine avait 2 ans. Elle dessinait sur un mur chez ses parents. Et quand ses parents sont arrivés, ils n'étaient pas contents. Elle a balancé. Elle a dit que c'était sa petite sœur qui avait, je ne sais plus, quelques mois, qui est donc clairement pas capable de tenir un crayon. Mais entre-temps, il s'est passé quoi ?
C'est passé de passion à métier peut-être 1 an avant. Avant, ça a toujours été quelque chose que je faisais. Voilà, j'ai toujours fait des petits dessins, des gribouillis un peu partout, dans les agendas de mes copines, dans les marges de mes cahiers, comme tout le monde. C'est quand j'étais en prépa que j'en ai fait un blog, en fait, voilà, qui existe toujours et qui a des dessins très moches au début parce que, bon, déjà, en termes de style, j'ai un peu évolué et surtout, à l'époque, je dessinais sur des feuilles de papier, je prenais une photo et je mettais ça sur le blog, donc c'est pas très beau. Donc, disons que ça, je sais plus, c'était peut-être il y a 13-14 ans que j'ai créé ce blog, mais j'ai seulement commencé à gagner de l'argent avec mes dessins après avoir eu mon diplôme de traductrice dans les mois en fait où j'étais en train de chercher en fait justement un poste à l'étranger et en attendant j'ai créé une petite auto-entreprise pour pouvoir parce que j'ai eu des opportunités pour faire du dessin et pour faire de la traduction et donc notamment mon premier contrat en tant qu'illustratrice pour un magazine féminin en ligne. Voilà, ça a été un peu le tremplin de début voilà, de ma carrière d'illustratrice. Mais d'ailleurs, pendant très longtemps, j'arrivais pas à me définir en tant qu'illustratrice. C'est-à-dire que si on me demandait ce que je faisais, j'allais dire d'abord, je suis traductrice et illustratrice. Maintenant, je dis plus illustratrice et traductrice. Je continue à faire les deux, mais voilà, je fais plus de... Ça dépend des périodes, mais mon but, c'est de faire plus de dessins. Donc voilà, je garde la traduction parce que ça me plaît beaucoup et que ça me permet de garder mes langues un peu vivantes aussi, celles que je pratique pas notamment. Mais voilà, je vise plus les projets dessins maintenant.
Il y a de grandes chances que vous ayez déjà vu passer les dessins de Clémentine Latron sur l'expatriation. On est à l'audio ici, comme vous le savez, alors comment vous les décrire ? Vous allez voir qu'en fait Clémentine s'y met en scène et dépeint avec beaucoup d'humour ce qu'est la vie de Français à l'étranger et plus particulièrement aux Pays-Bas. Je la laisse vous raconter.
C'est mon petit personnage, mon petit alter ego, tout simplement parce que disons que 99% des dessins que je fais sont inspirés de choses qui me sont arrivées ou de choses que j'ai vues, donc de la vie quotidienne. Et donc j'ai ce petit personnage avec une petite choucroute sur la tête qui me représente. Et voilà, les dessins, c'est pas très recherché, hein, c'est quelques petits coups de crayon, quelques petites taches de couleur parce que j'aime pas trop colorier, mais voilà, et c'est une petite mise en situation dans des situations dans lesquelles, pour les dessins expats du moins, je pense on s'est souvent retrouvé en tant que Français à l'étranger. Du moins, c'est ce dont j'ai l'impression, parce que parfois je dessine des choses et j'ai l'impression que ça n'est arrivé qu'à moi, et puis je me rends compte avec les commentaires que c'est arrivé à tout le monde. Donc, et puis voilà, je pense que le trait principal, oui, effectivement, c'est l'humour. Je pense que j'ai pas mal de gens qui me suivent qui sont pas du tout, qui sont pas à l'étranger parce que je dessine pas uniquement des situations de vie d'expat. Mais oui, j'ai souvent des retours. Les gens sont très gentils, laissent des commentaires, m'envoient des messages en privé, des photos de mes bouquins qu'ils ont achetés. Enfin, c'est hyper sympa et c'est rigolo parce que aussi parfois je fais des appels à témoins, mais je demande aux gens si telle ou telle situation leur est arrivée ou de me voilà est-ce qu'ils ont des situations similaires à raconter et en fait ils ont toujours plein de trucs et plein d'idées donc en général quand je lance des petits sondages comme ça après j'ai de quoi faire en termes de dessin pour quelques semaines voilà c'est Non, c'est sympa. Justement, les réseaux sociaux permettent aussi justement d'avoir ce retour et de communiquer avec les gens qui lisent mes dessins. Donc ça, c'est cool.
Et de cette première collaboration, une collaboration importante donc dans la carrière de Clémentine, vont découler 2 livres.
Bah, le premier, c'était pas en rapport avec l'expatriation. C'était mon éditrice m'a trouvé avec un dessin que j'avais fait sur les expressions, parce que j'aime aussi beaucoup les expressions, les illustrer, les expressions du sud de la France. J'avais appelé ça les expressions de Marcel Pagnol. Et en fait, elle les a trouvées sympas et elle m'a proposé de faire un tour de France, justement, des expressions rigolotes, des expressions françaises, illustrées. Donc, bien sûr, j'ai pas dit non. Et donc, ça, c'est le premier livre qui s'appelle « Le tour de France des expressions régionales », qui, malheureusement, est épuisé. Mais ça veut dire qu'il s'est complètement vendu, donc ça, c'est cool. Mais a priori, il sera pas réédité. Donc ça, c'était le premier. Et l'année suivante, j'ai pu faire paraître aux mêmes éditions, les éditions First, un petit recueil de mes aventures sur Courrier Expat, justement, qui s'appelle Les Expats. Lui, il marche bien, pour l'instant. Et puis après, ça s'est enchaîné, en fait. L'année d'après, j'ai illustré un carnet de recettes pour enfants. Et l'année dernière, alors là, c'était explosion. J'ai illustré, je sais pas, 3, 4, 5, une, à peu près 5, 5 livres pour ados et aussi sur le sommeil des bébés. Et j'ai écrit un guide d'Amsterdam et illustré toute la collection, les 4 titres de la petite collection lancée par Hachette qui s'adresse aux jeunes de 25 ans à peu près. Voilà, c'est une nouvelle cible, nouvelle collection. Donc voilà, ça s'est un peu emballé l'année dernière, mais et tout ça, c'est venu des dessins postés sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on m'a trouvé à chaque fois, donc enfin, c'est assez dingue.
Clémentine, est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir les mêmes opportunités de reconversion, les mêmes opportunités professionnelles si tu étais restée en France ? Alors forcément, peut-être pas en rapport avec l'expatriation, puisque c'est un sujet que tu vis et que tu racontes, mais je me demande quelle est la place finalement de cette vie à l'étranger dans les trajectoires pro et personnelles de ta vie ?
Je pense qu'elle est quand même assez importante, déjà parce que Courrier Expat a été un très gros tremplin. Donc ça, c'est déjà, ça aurait été difficile à retrouver avec un autre média, je pense. Et aussi parce que je pense que le fait d'être à l'étranger nous aide à porter un regard aussi sur notre propre culture. Et c'est peut-être pour ça aussi, en ayant fait des langues et en vivant à l'étranger, que j'ai peut-être un regard plus acéré sur notre langue, par exemple, dont les expressions. Et ça pareil, c'est des trucs, c'est en parlant avec des étrangers qu'on se rend compte qu'on a quand même pas mal d'expressions rigolotes et très très imagées. Donc je pense que si le fait d'être à l'étranger joue quand même une grande part dans jusqu'où j'en suis arrivée aujourd'hui, je pense.
Moi aussi, j'ai grandi dans une famille qui a beaucoup déménagé. Alors quand j'ai lu cette phrase de Clémentine, ça m'a beaucoup parlé. Elle explique en fait que Amsterdam, c'est la ville dans laquelle elle a vécu le plus longtemps de sa vie. Là où elle se sent véritablement chez elle.
Ouais, c'est ça. Je me sens vraiment chez moi. Mais il faut dire que je me sentais chez moi partout où je suis allée. Donc bon, je suis pas très compliquée. Oui, je me sens chez moi. Là, c'est bon. Ça fait 8 ans, donc j'ai construit ma petite vie amstello-damoise. Après, je dis pas que j'y resterai toute ma vie. Pour l'instant, j'y suis contente, mais en fait, j'ai du mal à me projeter. Comme je suis jamais restée très longtemps quelque part, j'ai du mal à concevoir de rester toute ma vie au même endroit. Donc, selon les opportunités, il est très possible que je parte à un moment. Voilà. Mais pour l'instant, c'est très bien. Je suis très contente d'être là. Que me réserve le futur ? Donc voilà, 2023, c'est bien parti pour être dans la même veine que 2022 en termes d'édition, publication, donc ça c'est chouette. Je suis partie dans les mêmes collections que l'année dernière pour les ados. Il y a des nouveaux titres, donc voilà, je suis partie sur les nouveaux titres. Il y aura sans doute du nouveau aussi chez Hachette. C'est encore embryonnaire pour l'instant, mais il y a des petits projets qui se préparent. Non, c'est cool. C'est parce que, en fait, quand après avoir fait le premier livre, j'étais en mode j'ai fait un livre et maintenant quoi ? en fait il y en a un deuxième qui est arrivé et puis encore un après, donc en fait finalement c'est bien, ça fait boule de neige et Je sais que c'est pas que de la chance, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de chance. Il y a du travail, mais... Le truc, c'est que la traduction, c'est des clients qui sont réguliers. L'illustration, ça marche plus sous forme de projet, à part pour quelques clients réguliers voilà, pour qui je dois dessiner toutes les semaines. Mais sinon, ça va être des gros projets qui vont tomber, qui vont durer quelques semaines ou quelques mois. Ça dépend aussi quel type d'illustration, parce que l'édition, c'est génial, mais c'est pas en faisant que de l'édition que je deviendrai riche, je pense. Donc, disons que la traduction, c'est aussi... voilà, c'est quelque chose que j'aime toujours faire, mais c'est aussi un bon compliment financier. Mais je pense que, oui, il y a moyen d'arriver à un moment à vivre exclusivement de l'illustration. Mais il se trouve que j'aime bien varier aussi. Voilà, je pense que si je passais toutes mes journées à dessiner, je m'ennuierais un peu. Et si je passais toutes mes journées à traduire aussi. Donc voilà, là, j'aime bien l'équilibre entre les deux, c'est sympa.
Après 8 ans passés à l'étranger, y a-t-il quelque chose, un conseil, que Clémentine aimerait se chuchoter à l'oreille de la Clémentine qui venait à peine de s'installer à Amsterdam ?
Je sais pas, vie pro, je pense que peut-être que je me conseillerais d'oser plus, d'être plus force de proposition, parce que finalement, je me rends compte que ça marche. Après, arriver à Amsterdam, je pense pas que je ferais les choses différemment, donc je sais pas si j'aurais vraiment de conseils à me donner. Non, alors si c'était pour des gens qui arrivent à Amsterdam, mais pas moi, je leur dirais de s'y prendre très très longtemps à l'avance pour chercher un logement, parce que c'est de plus en plus compliqué. Mais moi, j'ai eu de la chance, en fait, donc j'ai trouvé assez rapidement, et c'est, je pense, au niveau de Paris et Londres, là, pour en termes de prix et de difficultés...
Et au final, cette vie que Clémentine aime tant à Amsterdam, elle ressemble à quoi ? Si je ferme les yeux là tout de suite, est-ce que Clémentine pourrait m'y transporter ? Qu'est-ce que je vais y voir, y vivre, y ressentir ?
C'est effectivement une ville dont on a plein d'images, plein de clichés. Mais c'est des clichés qui sont pas faux, en fait. Donc, Amsterdam cliché, c'est des vélos dans tous les sens. Et ça clairement, c'est vrai. On sort de la gare, sur la droite, il y a un parking à vélo gigantesque avec des milliers de vélos dessus sur plusieurs étages. Je pense que quand on arrive à Amsterdam, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment le moyen de transport principal et quel que soit le temps, bon, c'est vrai que s'il neige et qu'il y a du verglas, on va peut-être éviter de faire du vélo, mais à part ça, voilà, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, bon, qu'il neige pas trop fort, on est à vélo et il y en a vraiment partout, garé, en circulation. Je le raconte souvent et je l'ai dessiné, mais les Néerlandais font vraiment absolument tout à vélo, donc on va les voir en train de promener leurs chiens à vélo, on va les voir en train de ramener leurs enfants de l'école à vélo, de traîner une valise à vélo, de déménager des plantes. Moi-même, je prends un malin plaisir tous les ans à aller chercher mon sapin de Noël à vélo. Bon, je prends pas des sapins de 2 mètres non plus. Ouais, c'est vraiment un mode de vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cliché ? Il y a le côté quartier rouge et coffee shop. Bah ça, c'est pas un cliché non plus, parce que c'est une partie importante du tourisme de la ville. Moi-même, officiellement, je crois que je suis dans le quartier rouge, même si en vrai, voilà, je suis un peu à l'écart des zones touristiques. Les coffee shops et le quartier rouge font partie aussi de la vie amsterdamoise. C'est un des plus vieux quartiers, le quartier rouge, c'est un des plus beaux. Ce qu'on ne voit pas trop quand on y va le soir, parce que il y a des lumières partout, ça c'est un peu je le compare souvent au Disneyland du sexe, parce que c'est vraiment ça, ça clignote, il y a de la musique, il y a pas de musique mais il y a de la lumière partout et les gens se baladent tranquille, voilà, c'est limite la balade familiale, enfin je plaisante un peu mais c'est très très particulier comme atmosphère. Donc ça c'est pour les clichés, et les clichés, voilà, qui sont très vrais. Mais après, voilà, derrière les clichés, il y a aussi une ville qui est très, très belle, très, très ancienne, qui fait vraiment décor de film à tous les coins de rue, dans le centre, du moins. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Ça fait 8 ans que je prends des photos dès que je mets le pied dehors et que je m'en lasse pas. C'est une ville où il fait bon vivre à l'intérieur parce que voilà, le temps est pas toujours au beau fixe, mais du coup la ville est construite pour, donc il y a les cafés sont très cosy, les intérieurs des maisons aussi. Les Néerlandais d'ailleurs ferment pas leurs rideaux, donc du coup, d'ailleurs ils ont pas de rideaux, enfin ou rarement. Donc on se balade, on voit tout chez eux. Non, c'est une culture où voilà, on cache rien quoi, donc c'est particulier aussi. Et puis c'est une culture aussi où bah c'est des bons vivants. Donc pareil, ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Dès qu'il fait beau, les gens sortent des petites chaises sur le pas de leur porte, boivent leur petit verre de vin. Les bateaux vont sur les canaux, les gens prennent l'apéro dessus. Y a du paddle sur les canaux. Il y a des gens qui se baignent, mais c'est pas hyper propre. voilà, c'est une ville qui est à taille humaine et où je suis vraiment vraiment bon vivre. Donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a retenue depuis toutes ces années. Et puis, le pays est tout petit, donc en fait, on prend le train, on est à la plage en une demi-heure. Bon, c'est pas la Méditerranée, mais c'est quand même chouette. C'est marrant parce que c'est pas un pays qui est sur, enfin. C'est pas le genre de pays où les gens vont se dire quand ils sortent de leurs études, ah j'ai envie d'aller aux Pays-Bas. Enfin, en tout cas de mon expérience c'était pas ça. Mais c'est un pays et une ville qui gagne à être connue justement pour toutes ces raisons. Et et je connais très peu de personnes qui n'ont pas aimé vivre à Amsterdam. Il y avait quoi à ramener hyper typique? Bah les gens ramènent souvent des bulbes de tulipes par exemple, des bulbes de fleurs. Du fameux marché aux fleurs flottant qui je pense en déçoit pas mal parce que on s'imagine un marché de fleurs coupées mais c'est essentiellement des bulbes et il y a peut-être un marchand qui vend des fleurs coupées donc des bulbes de fleurs du fromage, c'est la patrie du gouda, on prononce pas gouda mais rauda, j'en ai fait un dessin aussi. Et le peintre Van Gogh aussi, se prononce pas Van Gogh. Si vous dites Van Gogh à un néerlandais, il va pas comprendre, c'est Van Gogh. Van Gogh. voilà, donc du fromage. Il y a quoi? Il y a des petites gaufres plates, ou les spécialités quoi. Des gaufres plates qui s'appellent les Stroopwafel, qu'on trouve au supermarché et qui sont très bonnes. J'ai pas le droit de rentrer chez moi sans en rapporter un paquet pour mes sœurs en général. Ouais. Bon, en général, c'est des spécialités locales en fait. À manger. Ou...
Et pour finir, vous aussi qui vivez à l'étranger, vous avez sans doute plein d'histoires à raconter. Alors Clémentine a un petit message pour vous.
Je sais pas, je peux faire un appel aux gens s'ils ont des idées de dessin. Envoyez-moi des idées de dessin sur la vie d'expat. Je suis preneuse.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Clémentine, je t'adresse un grand merci pour ce très chouette moment passé ensemble. Et je vous remercie, vous aussi, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous souhaitez retrouver plus d'informations sur Clémentine et son travail, ses dessins, je vous invite à consulter son site internet, dont je vous mets le lien dans la description de cet épisode, ou à la suivre directement sur Instagram. Vous allez voir, vous ne devriez pas être déçus, il y a de très très chouettes dessins. C'est la fin de cet épisode bonus que je voulais sortir à l'occasion de cette journée internationale de la langue maternelle. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.